Bonjour à tous. Le mariage, la fusion, l'union de la culture et des idées. Un nouveau format à retrouver à intervalles réguliers dans votre grande table. Aujourd'hui, la rencontre entre le cinéaste Éric Rochant et l'économiste Daniel Cohen à l'occasion de la parution de son livre-essai « Il faut dire que les temps ont changé », chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète chez Albin Michel. Le Monde va-t-il mal tourner? Eh bien, on en parlera à partir de 12h55. Tout d'abord, rentrée après rentrée, elle bâtit une œuvre littéraire, celle qui se définit comme une joyeuse par tempérament et une pessimiste par conviction, revient avec les prénoms épicènes chez Albin Michel, le roman de la vengeance dans les yeux d'une adolescente. En parallèle, paraît un livre d'entretien avec Michel Robert, La bouche des carpes aux éditions L'Archipel. Amélie Nothomb est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, un podcast à partir de franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Mais d'abord, des éclats de Mostra avec Michel Simon en direct du Palais du Festival à Venise, accueilli par nos confrères de la RAI. Bonjour Michel.
Bonjour.
Les projections, beaucoup de projections ont eu lieu ce week-end. Qu'avez-vous vu de beau et de moins beau?
Alors d'abord, il faut dire que le festival explose parce qu'on n'a jamais vu une telle fréquentation, non seulement de la critique mondiale qui est là en masse, mais aussi le public, parce que c'est un festival aussi pour le public. Donc il y a des queues immenses, les salles sont toutes pleines et il y en a beaucoup. Alors bon, évidemment, il y a toujours un mauvais film qui se distingue, c'est le remake du film de Dario Argento, Suspira, par Guadagnino, le célèbre, trop célèbre metteur en scène italien, qui est un peu une catastrophe. Il y avait aussi un film qui s'appelait La Montagne, un film américain qui a accouché d'une souris, sans intérêt. Par contre, la présentation des films français a été excellemment bien accueillie, puisque le film de Olivier Assayas, Double Vie, qui est une sorte de comédie à la Woody Allen dans le monde de l'édition, est vraiment délectable, avec Juliette Binoche, Vincent McCain et bien d'autres. C'est vraiment une petite réussite. Assayas n'a jamais fait ce genre de cinéma, il le réussit parfaitement. Donc très bon accueil pour ce film qui est classé deuxième ou troisième par presque tous les panels de critiques étrangers, français, du public. Il y a les Frères Sisters, un western de Jacques Audiard sur deux frères dont l'un adore tuer, et puis le plus jeune, et puis le frère aîné voudrait avoir une vie plus normale. Jacques Audiard a réussi à faire un vrai western. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que il n'a pas été tourné aux États-Unis, il a été tourné, je crois, en Espagne et en Roumanie, mais c'est un film qui vraiment a le jus et l'authenticité des grands westerns américains. C'est pas du tout une parodie, c'est pas du tout au second degré. Il croit à son sujet et le film a été aussi extrêmement applaudi. Il fait partie des deux ou trois grands favoris.
Et bonne nouvelle, et enfin, le film arrive prochainement sur nos écrans en octobre en France.
Dans 15
on aura l'occasion
jours,
d'en reparler autour de cette grande table.
Voilà. Et puis il y a aussi les Frères Ennemis de David Holofernes. Alors on peut discuter peut-être sa présence en compétition parce que c'est un film criminel très classique mais très efficace avec Reda Kateb et Mathias Schoenaerts sur le trafic de drogue et également sur deux frères, l'un qui est dans la police et l'autre qui est dans le trafic de drogue. C'est un film que les Américains savent très bien faire et ici il est très réussi sur un mode mineur. Mais le film qui a dominé, il faut le dire tout de même, la compétition, c'est le film Roma de Alfonso Cuarón, le grand cinéaste mexicain. C'est un film autobiographique. Il a fait le montage, la photo, le scénario, la mise en scène en noir et blanc. C'est l'évocation de sa jeunesse au moment des émeutes étudiantes à Mexico dans les années 70. La vie de famille, le père qui s'en va, qui plaque sa femme et ses enfants. Et c'est un film d'une beauté, d'une simplicité, mais une simplicité très travaillée, tout à fait remarquable. Il faut aussi parler tout de même de ce qui devait être un événement et qui a fait long feu, c'est le remontage ou le montage du film d'Orson Welles d'il y a 40 ans, The Other Side of the Wind, ce qui aurait dû être son dernier film. On le présente comme le dernier film d'Orson Welles, c'est une totale imposture. Welles n'a jamais voulu le terminer, il a mis 6 ans à ne pas le terminer, et à mon avis il ne l'aurait jamais terminé, parce qu'il se rendait compte qu'il n'avait plus la main, qu'il essayait de faire du cinéma d'aujourd'hui, et que les plans que l'on voit sur les écrans sur le, ne sont absolument pas du niveau d'Orson Welles, et le film est confus, et avec John Huston en vedette qui joue le rôle d'un metteur en scène un peu Orson Welles. Alors évidemment, voir Huston, le visage de Huston, c'est passionnant, mais malheureusement le film est totalement sans vrai intérêt.
Merci beaucoup, Michel Simon, Olivier Assayas, les frères Cohen, Alfonso Cuarón. Vous avez cité des noms de cinéastes, de réalisateurs, peu de noms féminins. C'est aussi, encore une fois, la particularité de cette sélection que Jacques Audiard a souhaité dénoncer ou mettre en avant hier avant de présenter son film Les Frères Sisters à la Mostra de Venise. Il a fustigé, dénoncé l'absence de femmes à la tête des festivals et aussi dans la sélection de cette Mostra, sélection très masculine. Merci, Michel Simon.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et Michel, c'est un prénom épicène, ça. Dans les prénoms épicènes, la passion fait des victimes. Les amants déchus élaborent de cruels stratagèmes, les épouses aimantes sont manipulées, et la vengeance est un plat qui se mange bien froid. Au cœur de ce roman, le nouveau d'Amélie Nothomb, une jeune fille prénommée Épicène. Amélie Nothomb, bonjour.
Bonjour Olivia.
C'est la rentrée des classes aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé. Votre héroïne Épicène est une élève brillante, d'une intelligence stupéfiante, écrivez-vous, même si elle voue une haine pleine et entière à l'institution. Les professeurs avaient beau être abominables, ils n'étaient rien à côté des élèves. Ça, c'est la collégienne Nothomb qui parle. Quel rapport vous aviez à l'école ?
Enfant, ça se passait bien. J'étais ce qu'on appelle une bonne élève et j'avais des relations convenables avec mes classes. Adolescente, ça s'est gâté. Je dirais que c'est plutôt avec les jeunes que ça s'est moins bien passé. Je ne me souviens pas de vraies crises avec les professeurs. Mais avec les élèves, clairement, j'avais un problème.
Et le rapport au savoir que vous avez développé, vous présentez souvent comme une autodidacte de l'écriture, en tout cas. Vous avez un rapport assez boulémique à la connaissance. Mais ça, c'est passé par l'école, où vous vous êtes construit cette relation-là, seule, face à vos livres, dans
Écoutez,
les moments de solitude.
Autodidacte de l'écriture, pour moi, c'est un pléonasme. Je prétends qu'on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre à écrire.
Les Américains ne pensent pas comme
moi. Ils ne pensent pas comme moi. J'avoue mon scepticisme profond devant tous ces cours de storytelling. En même temps, je n'y ai pas assisté, mais je ne conçois pas qu'on puisse apprendre à écrire autrement que seul. Pour moi, c'est comme tomber amoureuse. Ça s'apprend tout seul, bien sûr, à ses risques et périls. Bien sûr, on n'apprend que par l'échec et par l'erreur. Bien évidemment, le fait de lire énormément joue un rôle dans tout ça. Mais rien ne remplacera l'apprentissage personnel et voilà, rien ne permet d'en faire l'économie.
En même temps, vous dites aussi ma force et ma structure, et un roman répond aussi à certains principes. Il y a des fois, on imagine, où vous avez dû écrire des textes qui vous semblaient sans queue ni tête, qui manquaient de cette fameuse structure pour rendre l'histoire abordable pour le lecteur.
Mais il va de soi que si on parvient un jour à écrire un roman qui vaut quelque chose, c'est parce qu'on en a raté beaucoup auparavant. Mais voilà, mon premier roman publié, Hygiène de l'assassin, était le 11e que j'ai écrit. Mon 27e roman publié, Les prénoms épicènes, est le 91e que j'écris. Donc l'apprentissage continue. Et quand je reçois des lettres de gens qui me disent « Apprenez-moi à écrire », ce n'est pas que je ne veuille pas les aider, c'est que c'est juste impossible. Je le répète, c'est comme tomber amoureux. C'est un apprentissage intime, chacun a sa manière de le faire. Donc la structure diffère d'un écrivain à l'autre et on ne peut découvrir que la sienne.
Vos livres au programme du secondaire dans certaines écoles, en Belgique, en France ou au Canada, qu'est-ce que ces élèves ont à apprendre de vos livres pour vous ? C'est d'abord une langue, une manière de la manier.
C'est très intimidant de savoir que l'on va être étudié dans les collèges et les lycées. J'espère que ce n'est pas trop perturbant pour les adolescents. Je n'ai aucune idée de l'effet que ça peut faire à un adolescent de me lire. Bon, déjà, bonne nouvelle, mes livres sont courts. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les adolescents ne me détestent pas trop. C'est qu'ils ne vont pas y passer trop de temps. Quant à savoir ce que ça peut leur apporter, mais je n'en ai, croyez-moi, aucune idée.
Vous savez pas pourquoi vous êtes mise au programme, comme on dit.
Je ne sais pas du tout pourquoi.
Si c'est pour le regard que vous posez sur le monde ou si c'est pour la langue très particulière qu'est la vôtre.
Il faudrait poser la question au professeur ou au ministre. Je n'ai pas entendu dire que les élèves s'en étaient plaints, mais moi, cela continue de me sidérer.
Vous jouez beaucoup avec les mots, mais en même temps, vous ne trichez pas avec la syntaxe. Libération nous apprend ce matin que les Wallons veulent simplifier l'orthographe du français, et notamment ce fameux accord du participe passé avec le verbe avoir, les livres que j'ai lus, les chapeaux que j'ai achetés, au hasard comme exemple. Ça a été chiffré, c'est assez rigolo, à 80 heures d'apprentissage pour cette simple règle des accords avec le verbe avoir. Est-ce que ça répondrait, ce type de simplification, à votre désir à vous d'écrivain, d'épure, de simplification du langage ?
Je n'avais jamais entendu parler de ce projet de réforme orthographique. Je ne suis pas sûre qu'elle soit une véritable simplification. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est certainement pas le genre de simplification que je fais. Il faut se méfier des fausses simplifications, c'est-à-dire des simplifications qui aboutissent à une complexification de la langue. L'accord du participe passé n'est pas totalement absurde. Il permet de clarifier syntaxiquement beaucoup de situations, de les rendre plus claires, d'éliminer des ambiguïtés. Puis, franchement, est-ce qu'il nous a vraiment fallu 80 heures pour apprendre l'accord du participe passé? Je n'ai pas un tel souvenir.
Bon, à voir. La force de votre jeune héroïne, Épicène, on l'évoquait, même dans la haine, c'est qu'elle parvient à garder la maîtrise de sa vie. Est-ce que vous avez, vous, parfois, le sentiment de perdre la maîtrise de vos mots? Ce pouvoir des mots que vous avez souvent souligné, à la fois cette parole salvatrice, ce qui est le cas dans les prénoms Épicène, et ces mots qui peuvent aussi tuer. Est-ce que parfois vous perdez ce contrôle?
Mais bien sûr, mais tous les jours. C'est aussi pour ça que j'ai besoin d'écrire absolument tous les jours et de commencer toutes mes journées par 4 heures d'écriture dure de 4 heures du matin à 8 heures du matin. C'est parce que c'est tellement difficile. Et là, vous me voyez ici presque à nu devant vous parce que là, je parle. Parler, c'est beaucoup plus difficile d'écrire. Non qu'écrire soit facile, mais au moins quand on écrit, on peut avoir l'illusion d'une certaine maîtrise quand on parle pas du tout. Mais disons que chaque matin, quand je me mets à écrire pendant mes fameuses 4 heures quotidiennes, il s'agit de me réapproprier le langage. Le problème du langage, c'est que on le galvaude tellement tous les jours, et moi comme les autres, hein, on est forcé de s'en servir tellement qu'on aboutit à une espèce de déperdition de sens et de déperdition de maîtrise qui coupe les ailes de tout locuteur. Chaque matin, il s'agit de me réapproprier le langage, de retrouver cette illusion du tout petit enfant. Quand on découvre, quand on s'approprie un nouveau mot, quand on a 2 ans, 3 ans, on se sent le maître du monde. Quand j'écris, c'est cette illusion-là qui réapparaît.
Vous vous mettez des contraintes? Est-ce que la réappropriation du langage, c'en est une, par exemple?
C'est-à-dire que ce n'est pas une contrainte, c'est quel serait l'intérêt de le faire sinon ça se fait tout seul. Ce ne sont pas des contraintes extérieures, vous voyez. Quand j'écris, je veux absolument retrouver ce langage-là et aussi retrouver mon son. Mon son, je l'entends très bien à l'intérieur de moi. Il est très difficile de le produire par les moyens du langage, mais justement, l'épure du matin, c'est le moment d'y arriver.
Dans les prénoms Épicène, il y a plusieurs figures mythologiques, figures aussi de la littérature qui réapparaissent, et notamment celle-ci.
Vous savez qui je suis?
Oui, dites-le.
Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Il a entendu ce qu'il ne fallait pas entendre.
Ça me fait comme des rats.
Il a été où les hommes ne peuvent pas aller et d'où personne ne revient.
Votre femme est morte. Vous plaisantez? Ce serait une plaisanterie bien étrange. Vous avez refusé de m'entendre.
Eurydice. Orphée, écoutez-moi.
Eurydice!
Mais comment? Pourquoi?
Elle a fait une mauvaise chute. Et je devine qu'il y a encore autre chose.
Mais quoi?
Il nous reste encore un moyen de racheter votre folie.
C'est le rêve qui continue.
Extrait de Orphée de Cocteau en 1950. Votre héroïne, Épicène, va réaliser sa propre traversée du Styx à l'adolescence. Qu'est-ce que Cocteau, là dans cet extrait, mais tout simplement la figure d'Orphée, symbolise pour vous aujourd'hui dans cette quête?
C'est le plus important de tous les mythes. Orphée est tout de même le seul être humain qui a le privilège d'aller aux enfers et d'en revenir vivant. En plus, en rapportant quelqu'un, mais même sans rapporter quelqu'un avec lui, puisque de toute façon, il échoue dans cette démarche, puisque la dernière seconde, il se retourne et ça ne marche pas, il perd Eurydice. Mais même tenu compte du fait qu'il perd Eurydice, il est tout de même le seul être humain qui puisse faire l'aller-retour aux enfers. Et ce n'est pas un hasard si cet honneur échoit au poète. Le poète est le seul qui peut le faire. Je suis tellement sûre que ce mythe correspond à quelque chose de vrai que, voilà, écrire contre de la mort, ça a pour moi un sens énorme. Alors, on a envie de me dire, mais qui cherchez-vous au juste à ressusciter? Écoutez, déjà, ressusciter le langage, c'est une entreprise suffisante pour moi.
Dans sa dimension métapoétique aussi, ce mythe d'Orphée qui interroge le succès. Et là, je vous cite, extrait des prénoms épicènes. Poète, à l'époque, laquelle, c'était difficile à savoir, cela ne signifiait pas la même chose qu'aujourd'hui. Un poète chantait ses poèmes en jouant de la lyre. Ainsi, il les retenait sans avoir besoin de les écrire. Pour ce motif, les enfants de cette période ne devaient pas apprendre par cœur des poésies et les réciter dans un air godiche devant la classe. Le poète était à la fois le poème, la musique et le texte. Pour passer à la postérité, il devait rencontrer un autre poète et lui transmettre son art par contagion. La poésie à succès relevait de l'épidémie. Le mauvais poète ne créait qu'un virus inoffensif. Personne ne l'attrapait. Comment devenir un Orphée moderne? Ça, c'est aussi la question depuis Gutenberg. Tout est écrit. Est-ce que ça enlève de la force au récit pour vous?
Mais ne l'excluons pas. Vous savez que quand Pisistrate a ordonné la toute première la toute première transcription de l'Iliade et de l'Odyssée, ça a fait scandale. Les Grecs ont hurlé en disant qu'on n'avait pas le droit de faire une chose pareille, prétendant que le texte avait considérablement perdu à la transcription. Et vous savez quoi? C'était certainement vrai. Il est certain que dans la tradition orale, le texte était beaucoup plus fort. Maintenant, tout le monde sait que si on n'avait pas retranscrit l'Iliade et l'Odyssée, nous l'aurions certainement perdu aujourd'hui. Donc on ne peut pas totalement déplorer cette transcription. Mais il est certain que cette première transcription a été une perte. Voilà, donc je perpétue cette perte en écrivant des textes. Bon, dans mon cas, je considère que la déperdition est moins grave. Il ne s'agit jamais que d'Amélie Nothomb, qui ne détient aucune tradition orale. Mais il est certain que nous ne saurons jamais ce qu'a été la force d'un texte qui, justement, s'attrapait par contagion, avec tous les phénomènes d'hypermémoire que cela supposait et aussi toutes les variations que cela supposait qui devaient faire vivre les textes de façon extraordinaire.
Voilà, et dans ça nous évoque Barbara Cassin et son éloge de la traduction qui raconte quand même comment les récits, les cultures peuvent se transmettre grâce à cette opération presque du Saint-Esprit qui est tellement magique qu'est la traduction. L'Iliade et l'Odyssée que vous avez traduit, selon la légende, en tout cas vers 15 ans, on ne sait pas ce que donnait cette traduction d'Amélie Nothomb, de l'Iliade et de l'Odyssée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de déperdition de sens ou au contraire, est-ce que vous y avez apporté une petite touche subjective et que vous avez privilégié certains points du récit dans votre manière de l'aborder?
Bon, commençons par dire que je ne l'ai pas retraduite en entier. Mon projet était de retraduire l'Iliade et l'Odyssée en entier. Finalement, je pense avoir traduit exactement un tiers de l'Iliade et croyez-moi que ça m'a déjà paru colossal. Mais je me souviens très bien de l'état dans lequel j'étais à 15 ans. C'était pendant les vacances d'hiver, j'avais trouvé le moyen d'être totalement isolée pendant 2 semaines. Et ce que j'ai retraduit de l'Iliade, je me sentais dans un état de transe absolue. Je me disais, c'était tellement énorme de faire ça. Donc, franchement, je ne sais pas si ma traduction valait quelque chose, mais l'état dans lequel j'étais lorsque je faisais ma traduction était d'une force incomparable et ne serait-ce que pour ça, j'ai eu raison de le faire.
Et de ces années-là, vous avez, semble-t-il, gardé l'idée que tout roman est soit une Iliade, soit une Odyssée. Dans les prénoms épicènes, il y a de l'Iliade dedans.
C'est évidemment une Iliade. Un texte qui commence par une si forte colère se place tout de suite sous l'égide de l'Iliade. L'Iliade commence par la colère d'Achille. L'invocation à la muse est tout de suite suivie de la colère d'Achille. C'est aussi pour ça que c'est un texte si fort. C'est un texte qui est porté par une colère inextinguible. J'ai toujours eu l'espoir d'écrire aussi un texte porté par une colère inextinguible. Remarquez qu'il a quand même fallu que j'écrive 90 romans avant celui-ci. Donc auparavant, je n'avais jamais écrit à partir d'une colère.
Alors c'est un roman de la colère, un roman de la vengeance aussi. Et on s'interroge tout au long de ces pages si la colère peut être juste, si la vengeance peut être juste. C'est une question qu'on pourrait poser aux élèves au bac philo. Mais c'est une question qui est récurrente et de tout temps à laquelle vous avez trouvé, vous, une réponse ?
Alors, juste, je ne sais pas si la vengeance est juste, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, c'est une erreur. Et là, je ne me place même pas sous le prisme de la justice pour dire ça, mais sous le prisme de l'efficacité. Pour le coup, c'est les Africains qui ont raison avec ce superbe proverbe africain. Ne te venge pas, assieds-toi au bord du fleuve et attends de voir passer le cœur de ton esprit, de ton ennemi, pardon. La vengeance immanente est évidemment la plus efficace. Non qu'il y ait forcément des forces obscures qui s'en occupent, mais il faut plutôt y voir une fatalité logique. Si quelqu'un se conduit mal envers vous, forcément, il va lui arriver quelque chose.
Il est question de l'amour aussi, et oui. c'est là où il va arriver quelque chose à quelqu'un.
On parlait de catastrophe, il n'y en a pas de pire que l'amour.
C'est l'un des lieux principaux, effectivement, de ces catastrophes que l'on vit jour après jour. L'amour est une maladie qui rend mauvais, écriviez-vous dans Mercure. Chacun tue ce qu'il aime, écriviez-vous dans Attentat. Ici, la phrase clé, c'est « la personne qui aime est toujours la plus forte ».
C'est le contraire de ce qu'on nous a appris. On nous a toujours appris que si on aimait, on serait en situation de faiblesse. Et on voit très bien à quelle faiblesse cela pourrait correspondre. Mais on pourrait tout aussi bien retourner ce principe. Après tout, quand il nous est donné d'aimer quelqu'un, ce qui n'est déjà pas très fréquent, eh bien, on détient une force extraordinaire, alors que l'indifférent n'a aucune force particulière vis-à-vis de vous. Donc, on peut retourner ce qui est vu comme une passivité, la passivité de l'état amoureux, comme au contraire une force extraordinaire, une source d'énergie extraordinaire.
Mon père est un monstre, je le hais encore plus qu'il me hait, on évoquait cette colère. Et un jour, je ne sais pas comment, je le tuerai, dites Épicène sous votre plume ici. Un père qui déteste sa fille et réciproquement, hier, dans Frappe-toi le cœur, une mère qui voue à sa fille une jalousie proche de la haine, terrain de prédilection des grands auteurs classiques, Phèdre, Médée, Électre, Antigone, la famille est le lieu ultime pour vous de la tragédie, Amélie Nothomb.
Mais bien évidemment, Hitchcock l'a dit, les meilleurs crimes sont domestiques. Où est-ce qu'on s'étripe le mieux que chez soi et en famille ?
Et les familles tortueuses, dysfonctionnelles, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense.
Mais oui, parce que, regardez, même quand ça se passe bien, je viens d'une famille où ça s'est bien passé. Et même là, il y a eu quand même tellement de complexité, tellement de drames. Alors, à plus forte raison dans une famille où ça se passe mal.
Vous avez un sens aigu du tragique, Amélie Nothomb, mais dans le malheur de l'homme, il peut toujours y avoir aussi une dimension comique. C'est ce qu'évoque Bernanos, l'un de vos auteurs fétiches. Écoutez-le, 1946.
Si le malheur de l'homme n'est pas surnaturel, n'a pas dans le surnaturel son principe, l'excès même de ce malheur risque de le rendre comique. Si l'histoire de ce monde prenait fin cette nuit, après ma conférence, bien entendu, par quelque accident de laboratoire, eh bien l'histoire du monde finirait un peu comme une mauvaise pièce, une pièce bâclée, ou pire encore, une pièce si mauvaise que le public envahit la scène, assomme les acteurs, brise les lustres et fiche le feu au théâtre. Encore une telle comparaison exprime mal l'absurdité profonde, substantielle des événements qui nous accablent de leur dimension et de leur poids.
Si l'histoire de ce monde prenait fin cette nuit, eh bien l'histoire du monde finirait un peu comme une mauvaise pièce, une pièce bâclée, ou pire encore, une pièce si mauvaise que le public envahit la scène, assomme les acteurs, brise les lustres et fiche le feu au théâtre. Vous
êtes
d'accord
avec
Bernanos ?
Mais je suis d'abord tout à fait d'accord, mais surtout je suis subjuguée parce que c'est la première fois que j'entends la voix de Bernanos. Je veux croire qu'il s'agit quand même de ces fameux enregistrements d'avant-guerre, parce qu'il ne devait pas parler tout à fait comme ça. On reconnaît un petit peu trop le timbre de la machinerie d'avant-guerre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
On a 1946 comme date, discours lors des rencontres internationales de Genève pour la paix.
Écoutez, je ne saurais jamais tout à fait, mais vous n'avez pas l'impression quand même que les voix qu'on entend de l'époque se ressemblent un petit peu trop pour que la technique n'y soit pas pour quelque chose.
Vous pensez ? Faudra qu'on vérifie l'authenticité de cet enregistrement. Mais donc, sur le fond, vous êtes d'accord ?
Sur le fond, je suis complètement d'accord.
Si on revenait à ce stratagème du colacanthe, et j'espère que je le prononce bien, le nom de ce poisson.
Alors moi, je dis célacanthe.
Ah, vous dites c'est.
Oui.
Bon, ben, vous avez totalement ou sûrement raison.
J'ai vérifié
dans le
dictionnaire.
Parce que moi, je ne le connaissais pas avant de le lire dans votre livre.
C'est un E dans l'eau, donc ça se prononce E. Donc il y a un effet, pas besoin de cédille pour faire célacanthe.
C'est une métaphore de la douleur pour vous, ce que vit aussi ce poisson et ce que Épicène se réapproprie.
Oui, mais en même temps, c'est un stratagème extraordinaire. Ça pourrait être une métaphore de l'adolescence. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu la mienne. Quand je suis entrée dans mon adolescence, ça a été un traumatisme total. Je l'ai très mal vécu. Je me suis purement et simplement mise entre parenthèses pendant toute mon adolescence, qui m'a fait l'effet de durer des siècles. C'est-à-dire que j'ai suivi la stratégie de ce poisson. Le célacanthe est un poisson des abysses qui a le pouvoir de se mettre en état de mort clinique si les conditions de sa survie ne sont pas réunies. Mais aussi de se ressusciter si tout à coup les conditions de sa survie apparaissent de nouveau. C'est extraordinaire.
Et quelles ont été pour vous les conditions de la survie ?
La découverte de l'écriture, ou plutôt le fait d'avoir osé écrire à partir de l'âge de 17 ans.
Ça, il y a eu aussi dans ces années-là votre propre traversée du Styx, comme on l'évoquait tout à l'heure.
En effet, oui. Je me suis toujours demandé comment j'avais pu survivre à mon adolescence, mais en même temps, n'en faisons pas un phénomène trop particulier. Je crois que c'est une question qu'on pourrait poser à chaque personne. Comment avez-vous pu survivre à votre adolescence ?
C'est vrai. Tout adolescent peut se poser cette question même
c'est
aujourd'hui.
C'est vrai.
Est-ce qu'en lisant vos livres, ils trouvent, à votre avis, des pistes, des conseils, des indices pour réussir à y survivre ? Est-ce qu'il y a cette envie-là aussi ?
Je l'espère. Bon, ce qui revient quand même beaucoup dans mes livres, ce sont des adolescents qui trouvent un livre qui va leur parler, qui va les subjuguer, qui va les sauver. C'est quand même un petit peu ce que j'ai trouvé, moi, pour me maintenir en vie pendant mon adolescence sans savoir ce qui m'attendait. L'amour de la littérature et la pratique intense de la lecture, sans aller jusqu'à la traduction d'Homère, m'a certainement permis de rester en vie.
On a beaucoup regardé derrière, dans le passé aussi, parler de ces auteurs qui vous sont chers. Est-ce que vous regardez souvent devant ? Est-ce que cette société du futur, telle qu'elle est en train de se bâtir aujourd'hui, vous inspire aussi ?
Ma foi, j'ai jusqu'à présent consacré un seul roman à la prospective. Il s'agit de Peplum. C'est un roman d'il y a 20 ans, qui se passe au 26e siècle. Le moins qu'on puisse dire, qu'il est extrêmement pessimiste. C'est ça qui est un petit peu gênant dans la prospective, c'est qu'il est impossible qu'il ne soit pas foncièrement pessimiste.
Mais la prospective, c'est l'imagination, non ?
Oui, mais je pense ne pas manquer d'imagination, mais faire en sorte qu'elle ne soit pas purement désespérante, en l'occurrence, c'est quand même très difficile.
Parce que quand vous parlez du présent, vous êtes plus optimiste ?
Non, mais peut-être moins immédiatement catastrophiste.
Merci beaucoup, Amélie Nothomb. Les prénoms Épicène, votre roman vient de paraître chez Albin Michel. À suivre, on va retrouver l'économiste Daniel Cohen et le réalisateur Éric Rochant. Ensemble, nous allons parler des temps qui vont, des temps qui passent, des temps qui changent. Ce sera à partir de 12h55.